Il est 15h ici à Paris, 9h à Port-au-Prince. RFI Midi, la dernière demi-heure sur le continent américain. Dans quelques minutes, on fera le point sur l'actualité haïtienne avec Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On reviendra notamment sur les préoccupations américaines face aux violences des gangs. Analyse aussi de la politique latino-américaine de Donald Trump, qui a reçu le président du Salvador, Nayib Bukele, hier à la Maison-Blanche. Les deux dirigeants s'entendent notamment sur leur politique migratoire et sur leur façon de lutter contre la criminalité.
Vous ne pouvez pas libérer les criminels et penser que la criminalité va baisser comme par magie. Il faut les emprisonner pour pouvoir libérer les 350 millions d'Américains qui demandent la fin de la criminalité et du terrorisme.
Déclaration de Nayib Bukele, on en reparlera avec le correspondant de RFI à Washington. Un détour aussi par l'Équateur, après la réélection de Daniel Noboa et la contestation des résultats de la part de Luisa González. Et puis l'actualité des Outre-mer avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous allez parler des algues sargasses qui sont de retour en Guadeloupe.
Eh oui, on ne s'y habitue jamais vraiment, mais elles reviennent chaque année, comme les impôts ou les cyclones. Une fois de plus, il faudra supporter les algues brunes, nous dira tout à l'heure notre confrère Sébastien Gilles.
Et rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord le journal. Avec Karine Bellicha, et on commence par le Soudan, la guerre qui entre dans sa troisième année aujourd'hui. RFI y consacre une journée spéciale.
Depuis le 15 avril 2023, la guerre oppose l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti. Le bilan précis est très difficile à établir. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts. Les violences sexuelles sont systémiques et 13 millions de personnes ont déjà été forcées de quitter leur domicile, déplacées ou réfugiées à l'étranger. La situation alimentaire est aussi particulièrement alarmante au Soudan. Charlotte Cossé nous a rejoint pour en parler. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Selon la FAO, près de la moitié de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. L'organisation onusienne estime que cette année, il faudra importer près de 3 millions de tonnes de denrées pour couvrir les besoins des Soudanais. Les récoltes à venir s'annoncent meilleures cette année, mais les filières de distribution sont toujours bouleversées par la guerre.
Oui, et le premier impact concret de ce conflit, évidemment, sur le terrain, ce sont les combats, les destructions et le contrôle des terres arables qui empêchent les agriculteurs de cultiver leurs parcelles. C'est le cas au Darfour, dans le Kordofan et surtout dans l'état de Djezira, le grenier à blé du pays. Les entrepôts, les laboratoires, les banques de semences, elles ne sont pas mises de côté, pas épargnées. À Khartoum, à Wad Madani, c'est une étude qui fait état de cela. Le conflit a gravement endommagé les infrastructures, notamment les routes, perturbant les chaînes d'approvisionnement, complète la FAO. Autre entrave, les barrières et les règles sur les trajets qui évoluent sans cesse. Un transporteur qui se confie à la chercheuse Annette Hoffman affirme par exemple qu'un camion de marchandises qui va de Port-Soudan dans l'ouest du Darfour peut prendre un mois et doit passer 25 checkpoints. Alors s'ajoute à cela les contraintes financières. La crise économique désorganise les arrangements habituels comme la livraison d'intrants à crédit pour les petits agriculteurs. Et si le système bancaire qui était à terre en 2023 a réussi à se remettre partiellement en route, le manque de liquidité et la dévaluation de la livre soudanaise contraignent les producteurs et l'ensemble donc de la chaîne d'approvisionnement qui est déjà assommée par l'inflation.
Charlotte Cossé du service Echo de RFI. Autre guerre en Europe cette fois, en Ukraine, la ville de Soumy se remet difficilement de la frappe aérienne russe dévastatrice de dimanche. Elle a fait 35 morts, des dizaines de blessés. Les services de secours continuent de déblayer les décombres. Le gouverneur de la région est limogé, accusé d'avoir négligé les mesures de sécurité à Soumy. Il avait autorisé une cérémonie de décoration de soldats. Les Russes en auraient profité pour lancer leur attaque. Donald Trump, lui, s'en est pris une nouvelle fois à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est accusé d'avoir commencé une guerre contre un ennemi trop puissant pour lui, malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Et la confrontation est aussi lancée avec la Chine.
Une confrontation commerciale. Malgré la pause sur la hausse des droits de douane décidée par Donald Trump, Pékin est toujours au cœur de la tourmente et entend bien se présenter comme un partenaire commercial fiable, loin de l'imprévisibilité américaine. Xi Jinping a entamé une tournée en Asie du Sud-Est. Après le Vietnam, le président chinois vient d'arriver en Malaisie, avant de se rendre au Cambodge. Cette étape malaisienne doit durer 3 jours. Comme à Hanoï, des accords commerciaux devraient être signés. Les deux pays ont un intérêt commun à renforcer leurs échanges. Guillaume Delteille.
Si la Malaisie a pour premier partenaire commercial la Chine, le pays s'est attaché à conserver un équilibre dans ses relations. Les États-Unis sont eux le premier importateur de biens malaisiens. Des biens qui pourraient être soumis bientôt à des droits de douane augmentés de 24%. Pour l'heure suspendue, cette mesure pourrait coûter des milliards de dollars à la Malaisie qui cherche donc de nouveaux débouchés. L'enjeu commercial de cette visite est encore plus crucial pour la Chine dont la plupart des biens doivent désormais s'acquitter aux États-Unis de droits de douane augmenté de 145%. L'Asie du Sud-Est est déjà le premier importateur de ces marchandises. La Malaisie achète pour plus de 100 milliards de dollars de biens chinois. Pékin a aujourd'hui besoin que ce soit plus encore. Et l'étape malaisienne est d'autant plus importante que le pays assure la présidence de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Une organisation régionale avec laquelle la Chine n'entretient pas que des bonnes relations. Plusieurs de ses membres ont des désaccords territoriaux avec Pékin en mer de Chine méridionale. Il se retrouve donc face à une équation compliquée, un besoin de tisser de nouveaux partenariats économiques sans augmenter leur dépendance vis-à-vis de la Chine.
Guilhem Delteille. En France, on s'inquiète aussi de la guerre commerciale engagée par Donald Trump.
Le gouvernement recevait ce matin les représentants du commerce, inquiets pour leur activité. Alors si la riposte aux surtaxes américaines se décide à l'échelle de l'Union européenne, la ministre déléguée au commerce, Véronique Louwagie, l'assure, le gouvernement se tient aux côtés des plus fragiles.
Il est important d'entendre tous les acteurs du commerce qui vont être concernés, impactés par les mesures qui ont déjà été prises et peut-être par les mesures à venir. S'il y a des difficultés de trésorerie, il peut y avoir des dispositifs au travers le médiateur du crédit, un certain nombre de dispositifs qui existent déjà pour accompagner les entreprises en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, finalement, nous ne connaissons pas tout à fait les impacts. Nous connaissons les inquiétudes, les préoccupations. Il y a également tout le sujet de l'impact sur la consommation des ménages qui aujourd'hui ne sont pas dans un dispositif de confiance, qui aura des répercussions également sur la consommation. Donc l'activité des commerces. Donc il faut que nous soyons présents à leur côté pour réagir le plus rapidement possible et adapter notre réaction aux différents enjeux et aux nouvelles annonces qui peuvent encore intervenir.
Et puis du sport, Karine, il avait très peu parlé aux médias depuis la fin des JO de Paris 2024.
Léon Marchand, quadruple champion olympique de natation, est de retour à l'entraînement au Texas. Il a donné une interview en visioconférence pour se confier sur son état d'esprit à l'aube d'une nouvelle saison estivale, avec en point d'orgue les championnats du monde à Singapour fin juillet. Interrogé notamment sur l'explosion de sa notoriété, le nageur de 23 ans reconnaît qu'il a parfois du mal à l'appréhender.
J'ai pris la tempête, même si c'est une tempête positive, ça reste une tempête, quoi. Il y avait énormément de choses à gérer, des choses que je suis pas forcément... c'est pas ma zone de confort. J'étais hyper content de le faire parce que c'est nouveau et que j'apprends plein de choses. Mais c'est vrai qu'au bout de 2-3 mois, ça commence à fatiguer. C'est compliqué de donner l'énergie en dehors de l'eau et dans l'eau. J'ai essayé de garder ma vie normale. J'ai essayé de me forcer à sortir, à rester le lion que j'étais auparavant. C'est juste que faire un point A, un point B dans la rue, c'était un peu plus long. Mais franchement, ça l'a fait. Je me suis vachement bien adapté et surtout, c'était une belle période. J'ai plein de souvenirs de tout ça. Mais je savais que ça allait être temporaire et que j'avais un moment, il fallait que je revienne sur les priorités, quoi. J'étais préparé à peut-être une popularité qui pouvait être temporaire, mais j'ai pas fait la chose à moitié à Paris. Quand je vais revenir en France, il y aura toujours un petit moment d'adaptation. Mais non, je pense qu'on s'habitue vite à ce genre de choses. C'est incroyable que les gens puissent réagir comme ça. Et puis les gens sont respectueux et il n'y a aucune attente. C'est juste merci de m'avoir fait passer ces moments-là en août. Voilà, c'est hyper positif et il ne faudrait pas trop s'habituer à tout ça.
Léon Marchand sera de retour en France début juin à l'occasion des championnats de France de natation à Montpellier.
Et c'était le journal de Karine Bellicha.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Allez, on passe à l'actualité haïtienne avec, comme chaque mardi, Godson Pierre. Bonjour Godson.
Bonjour Clotilde.
Directeur de l'agence Alter Press. Alors on commence avec cette série d'articles consacrés cette semaine à la dette haïtienne. Pour rappeler un petit peu, elle remonte à 200 ans cette dette, lorsque le roi français Charles X a demandé à Haïti de payer 150 millions de francs en échange de la reconnaissance de son indépendance. Et donc, 200 ans plus tard, vous essayez de comprendre, Godson, les causes et les conséquences de l'imposition de cette dette.
Oui, le 200e anniversaire, c'est exactement le 17 avril, un anniversaire qui est l'occasion de nombreuses initiatives en Haïti et en France en faveur de la restitution de la somme versée. Les historiens signalent que le montant réclamé équivalait à 10 années de recettes fiscales et à environ 15% du budget annuel de la France. Haïti est ainsi entré dans une terrible spirale. Toute l'économie a été tournée vers l'extérieur, constituant un lourd handicap au développement du pays. C'est un aspect abordé, entre autres, dans cette série d'articles proposés par l'enseignant et éditorialiste Rudy Edmé.
Et nous, sur RFI, on y reviendra effectivement largement ce jeudi avec notamment un reportage de notre correspondant Peterson Luxama. Un invité en studio, ce sera Pierre-Yves Bocquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Ce sera donc jeudi à cette même heure. En attendant, Godson, Alter Press revient aussi sur l'ouverture d'une enquête contre des policiers pour faute grave à Kenskoff après l'attaque de gangs armés en fin de semaine dernière. Qu'est-ce qu'on sait pour le moment de cette enquête ?
Eh bien, on est encore au stade d'annonce, mais selon les premières informations dont dispose la police, ces policiers en service ont abandonné leur véhicule pour aller passer la nuit avec des femmes dans une maison où ils ont été attaqués par des bandits armés. Un policier est porté disparu et 5 autres ont été blessés dans cette attaque. Les bandits armés ont également incendié 3 véhicules, emporté des armes, munitions et matériel en possession des policiers. Le comportement affiché par ces policiers impliqué dans ce dossier constitue une faute administrative grave, condamne la police. Elle annonce des sanctions.
Et face aux violences liées aux gangs, la communauté des Caraïbes, la CARICOM et les États-Unis ont chacun de leur côté fait part de leurs préoccupations vis-à-vis d'une éventuelle déstabilisation du pouvoir de transition. Est-ce que ce pouvoir de transition peut vraiment compter, Godson, sur l'administration Trump ?
Eh bien, c'est l'avenir qui le dira et qui montrera si concrètement Washington est intéressé au sort d'Haïti. Pour le moment, le gouvernement américain déclare soutenir la CARICOM qui s'élève contre toutes les manœuvres visant à déstabiliser le Conseil dans un communiqué. Cette prise de position fait suite à des discussions entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et la première ministre de la Barbade, présidente de la CARICOM également, Mia Mottley. En Haïti, entre-temps, le budget rectificatif 2024-2025, le montant de 323,4 milliards de gourdes, adopté hier en Conseil des ministres, fait de la sécurité une priorité majeure. 39,6 milliards de gourdes pour la police et l'armée, soit plus de 11% d'augmentation de leur part de budget.
Merci beaucoup, Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Toutes ces informations sont donc à lire sur votre site internet. Haïti dans la presse, toujours. Bonjour Juliette Chénion.
Bonjour.
Un responsable d'organisation de défense des droits humains interpelle aujourd'hui les États-Unis.
Oui, c'est à lire dans le New York Times. Les gangs ont changé et les États-Unis en paieront le prix, nous avertit Pierre Espérance dans une tribune. Cet Haïtien, directeur d'une organisation de droits humains, raconte depuis Port-au-Prince les appels de ses proches. « S'il te plaît, aide-moi, je vais mourir, fais venir les policiers », entend-il régulièrement. Pierre Espérance décrit l'escalade de violence. Depuis le printemps dernier, les gangs ont quasiment arrêté de se battre entre eux et travaillent désormais ensemble pour violer, torturer et tuer. Il rappelle aussi la corruption, l'incapacité du gouvernement à juguler la crise et le manque de moyens de la police.
Les États-Unis ont donc un rôle à jouer d'après cet Haïtien.
Les États-Unis peuvent faire beaucoup, dit même Pierre Espérance, d'abord en continuant de soutenir la police haïtienne, mais aussi en contrôlant mieux les trafics d'armes et de drogue entre les deux pays. Il pointe les conséquences dramatiques de l'arrêt brutal des aides américaines à Haïti, manque d'accès aux soins, à la nourriture, aux hébergements d'urgence. Si l'administration Trump est sérieuse quand elle dit vouloir rendre les USA plus sûrs et prospères avec un contrôle renforcé de la migration, elle ne peut pas cesser de s'engager en Haïti, conclut Pierre Espérance.
Et toujours aux États-Unis, certains Haïtiens pourraient voir, Juliette, leur statut temporairement protégé.
Oui, comme nous l'apprend le Nouvelliste, une juge fédérale bloque pour le moment l'arrêt par Donald Trump du programme Biden et donc la potentielle révocation du statut migratoire qui protège actuellement 500 000 Haïtiens, Cubains, Vénézuéliens et Nicaraguayens entrés sur le sol américain en règle pour des raisons humanitaires et pour 2 ans.
Une victoire temporaire, donc, même si aux États-Unis la politique migratoire de l'administration Trump continue de préoccuper la presse.
En effet, Clotilde, l'arrestation dans le Vermont hier d'un étudiant réfugié palestinien fait la une. Hossein Madawi pensait se rendre à un rendez-vous en vue de sa naturalisation. Il vivait légalement aux USA depuis 10 ans. Sur les images de CNN, on le voit en costume gris, menottes au poignet, être emmené par deux agents masqués. Lui fait le V de la victoire avec ses doigts.
Les autorités lui reprochent d'avoir mené des manifestations pro-palestiniennes sur le campus de son université à Columbia.
Cela semble faire partie d'une répression accrue contre les militants universitaires, analyse le média Politico qui rapporte les mots de l'avocate de Mohsen Madawi. Il est détenu en raison de ses propos, c'est scandaleux, et ceux du sénateur Bernie Sanders, c'est immoral, inhumain et illégal. De son côté, le Columbia Spectator rappelle que Mohsen Madawi avait été ciblé en ligne par des groupes pro-israéliens. Cet étudiant étranger est le 9e visé par une expulsion, indique The Intercept qui a révélé l'affaire. Le média précise qu'un juge fédéral a émis l'ordre de ne pas déplacer l'étudiant en dehors du Vermont. Son avenir reste donc incertain, conclut The Intercept. RFI.
The World's Voices. Des universités américaines, Juliette, qui sont engagées aussi dans une bataille avec la Maison Blanche. Harvard a vu plus de 2 milliards de dollars de financement gelés.
Le Washington Post, comme plusieurs médias, publie donc la lettre originale du gouvernement avec la liste de ses exigences envers Harvard. Changement des politiques d'admission et d'embauche, dénonciation d'étudiants étrangers accusés de violer la loi ou encore fin des programmes de diversité, égalité et inclusion. The Harvard Gazette publie de son côté la réponse du président de l'université qui dit Harvard ne cédera pas son indépendance ni ses droits constitutionnels. Pour le New York Times, la décision d'Harvard de résister à Trump est d'une importance capitale. Mais le combat contre la plus vieille, riche et élitiste université du pays est une bataille que Donald Trump et son acolyte Stephen Miller tiennent à mener.
Vous restez avec nous, Juliette, pour la suite et la fin de cette revue de presse. Pendant ce temps, Donald Trump, lui, s'affiche tout sourire avec Nayib Bukele à la Maison Blanche. Le président américain a reçu son homologue du Salvador hier. L'occasion pour nous d'analyser la politique latino-américaine de Donald Trump depuis son retour au pouvoir, il y a presque 3 mois maintenant. Depuis Washington, on retrouve en direct Guillaume Nodin. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
D'abord, Donald Trump réforme sa politique latino-américaine en fonction de l'une de ses priorités, on en parlait, sa politique migratoire.
Oui, et c'était tout l'objet de la visite du président salvadorien à la Maison-Blanche hier. Nayib Bukele a très clairement félicité Donald Trump pour les résultats de sa politique migratoire. Les deux hommes ont fait assaut d'amabilité. Donald Trump a félicité son invité du jour pour ses résultats dans sa politique contre la violence armée. Une politique très dure et contestée par des organisations de défense des droits de l'homme. Et Nayib Bukele a expliqué qu'il était tout à fait volontaire et impatient même d'aider Donald Trump à atteindre ses objectifs en matière d'expulsion. Le Salvador a conclu un partenariat avec les États-Unis pour accueillir les migrants les plus violents et notamment les migrants vénézuéliens, ceux que le Venezuela ne veut pas récupérer et accueillir. Ces migrants vénézuéliens sont accusés et soupçonnés de faire partie de gangs violents opérant aux États-Unis et ceux qui ont été expulsés vers le Salvador sont détenus dans la prison géante et ultra sécurisée qui est au centre de la politique sécuritaire du pays. Selon les derniers chiffres, il y aurait un peu plus de 200 criminels dangereux dans ce cas, sans que l'on sache combien exactement cela rapporte au gouvernement salvadorien.
Et la collaboration entre les deux pays pourrait aller plus loin.
Oui, Nayib Bukele laisse entendre qu'il ne renverra pas aux États-Unis un Salvadorien expulsé à la suite d'une erreur administrative et lui-même enfermé dans la prison de haute sécurité. Il marque encore davantage son soutien à l'administration Trump. Cette expulsion fait l'objet de plusieurs décisions de justice aux États-Unis, dont une de la Cour suprême qui enjoint l'administration à faciliter le retour de cette personne. Mais elle explique que c'est à Nayib Bukele de choisir. Et par ailleurs, la confiance est telle qu'au début de l'entretien, Donald Trump a évoqué la possibilité d'emprisonner au Salvador des criminels de nationalité américaine.
Alors, autre axe, Guillaume, de la politique latino-américaine de Trump, la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Oui, c'est même la justification première des droits de douane contre certains pays, dont le Mexique. Et certains pays offrent leur collaboration dans ce sens à l'administration Trump. C'est le cas du président équatorien réélu dimanche, Daniel Noboa, qui est né et a étudié aux États-Unis. Il met lui aussi en avant sa proximité avec Donald Trump. Il est d'ailleurs allé le voir au début du mois d'avril en Floride. Et il envisage une coopération de sécurité avec les États-Unis et notamment l'établissement d'une base militaire américaine en Équateur, selon des informations de presse. Tout ceci pour lutter contre la violence liée au trafic de drogue dont son pays est devenu une véritable plaque tournante.
Et puis il y a aussi la volonté américaine de contrôler le canal de Panama.
Oui, et de le libérer de l'influence chinoise. Il faut dire que 40% du commerce maritime américain passe par le canal. L'administration a annoncé triomphalement le rachat de deux ports aux deux extrémités du canal par un groupe américain, BlackRock, un groupe basé à Hong Kong, qui est un territoire chinois à l'autonomie de plus en plus réduite. Mais cette vente est actuellement bloquée par les autorités chinoises à des fins d'évaluation. Ce n'est pas très étonnant compte tenu des tensions actuelles entre les États-Unis et la Chine, notamment sur les droits de douane. De ce point de vue, l'Amérique latine est le cadre d'une rivalité qui se joue au niveau mondial.
Alors, est-ce que cela veut dire, Guillaume, que les États-Unis considèrent de nouveau la région comme un peu leur arrière-cour et qu'ils veulent la contrôler ?
Alors, certains signaux envoyés depuis le début de l'administration Trump vont dans ce sens. Le tout premier voyage du secrétaire d'État Marco Rubio, un hispanophone, le premier à ce poste, était pour l'Amérique latine et notamment le Panama. Et avant même qu'il soit président, Donald Trump s'est dit prêt à recourir à la force pour s'assurer du contrôle du canal. Des instructions ont été données au ministère de la Défense pour faire des plans afin d'augmenter la présence militaire américaine sur place. Et quand on sait que la tendance est plutôt au retrait ailleurs, cela apparaît donc clairement comme une priorité.
Les explications de Guillaume Nodin, correspondant de RFI à Washington.
RFI, la radio del mundo.
Et on en parlait donc à l'instant, c'est le jour d'après. En Équateur, le pays reprend sa vie quotidienne sous un nouveau mandat de Daniel Noboa, le président sortant réélu donc avec plus de 10 points d'avance face à Luisa González. La candidate de gauche, elle ne reconnaît pas ses résultats et demande un recomptage. Mais en attendant, c'est un nouvel échec pour la révolution citoyenne de l'ancien président Rafael Correa. Un échec qui ne sera pas sans conséquences, c'est ce que nous dit le correspondant de RFI en Équateur, Eric Sanson.
Luisa González n'a toujours pas accepté sa défaite. Tout comme Rafael Correa, elle dénonce une fraude électorale grotesque. Pour elle, les résultats ne correspondent pas aux sondages de son mouvement. Elle rejette l'opinion de quelques 1000 observateurs électoraux, nationaux et internationaux, qui affirment que l'élection a été normale. Pour le cinéaste, politologue et citoyen engagé Carlos Andrés Vera, cette réaction n'est pas une surprise.
Ce désir, cette recherche permanente du pouvoir de la part de ce groupe politique, que je considère comme une véritable mafia politique, fait que ce nouvel échec est un moment clé pour ce groupe et pour le pays.
Après 3 échecs électoraux, la révolution citoyenne fait aujourd'hui face à la perspective de 4 ans d'opposition, face à un président fort, voire autoritaire, qui devrait pouvoir négocier une majorité législative et qu'elle ne pourra empêcher de gouverner. Elle n'a plus de moyens de pression sur la justice pour obtenir la levée de la condamnation de Rafael Correa et des leaders du mouvement, aujourd'hui réfugiés au Mexique ou au Venezuela. Les maires coréistes de Quito et Guayaquil, les 2 principales villes du pays, ont félicité le président Noboa sur leurs réseaux sociaux et refusent de suivre Luisa González. D'autres maires coréistes ont adopté la même position, ainsi que les préfètes des 2 plus grandes régions du pays, Guayas et Pichincha. Le mouvement n'est donc plus homogène derrière son leader charismatique Rafael Correa, que de nombreux cadres voient désormais comme un obstacle, tant son image est un repoussoir pour de nombreux Équatoriens. Éric Sanson, Quito, RFI.
En Argentine, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a été reçu au palais présidentiel hier par Javier Milei. Quelques jours après l'annonce d'un prêt massif du Fonds monétaire international à Buenos Aires, cette visite avait pour objectif de souligner le soutien de l'administration Trump au gouvernement argentin, qui n'est pour autant pas épargné par les surtaxes du président américain. Correspondance de Théo Conscience.
Une profonde reconnaissance. Javier Milei le sait, l'administration de Donald Trump a joué un rôle clé dans le prêt de 20 milliards de dollars que le FMI a accordé à l'Argentine vendredi dernier. Et le président argentin a bien l'intention de rendre l'appareil à son homologue américain.
L'Argentine a l'intention d'être un allié solide pour les États-Unis dans la région. Au niveau commercial, nous comprenons la proposition de taxes douanières réciproques du président Trump. Nous sommes prêts à signer un accord commercial dans ce sens.
Il y a 10 jours, Javier Milei avait indiqué vouloir négocier un accord pour qu'une 50aine de produits puissent circuler librement entre l'Argentine et les États-Unis. Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a quant à lui confirmé à Bloomberg l'existence de négociations, mais sans traitement de faveur pour l'Argentine à ce stade.
Je pense que nous allons commencer les négociations et comme avec tout le monde, nous allons dire « faites-nous votre meilleure proposition » et en fonction de cela, nous verrons.
Le secrétaire d'État américain a également écarté pour l'instant la possibilité d'une aide financière directe du gouvernement américain à l'Argentine, tout en espérant que Buenos Aires s'attellera à réduire sa dépendance économique à l'égard de la Chine. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et on reste en Argentine, en Juliette, où la presse dresse le bilan du premier jour de la levée des restrictions des taux de change avec une dévaluation de 12% du peso.
Oui, on lit dans le journal financier Ambito l'interview d'un économiste pour qui le dollar s'est établi autour des projections et je cite « L'inflation devrait augmenter avec un taux de change qui restera un peu en retard, mais d'ici les élections d'octobre, il y aura peu d'inflation et le gouvernement sera alors plus à l'aise avec le taux de change du moment. » Le journal Clarín nous résume lui les près de 5 heures d'interview du président Milei données en ligne hier sur une chaîne de streaming, entretien débuté en chantant par un Javier Milei très enthousiaste de cette première journée sans restriction sur les taux de change. Le président argentin a affirmé que ces taux allaient continuer de baisser, assurant même que l'inflation finirait par s'effondrer. Quand, d'ici l'année prochaine, prédit Javier Milei, il a aussi promis de déguerpir de la scène politique d'ici 2031.
Juliette Chaignon pour la revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
À l'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand. Et donc, c'est un peu la même rengaine chaque année. Les sargasses sont de retour. Les algues ont été signalées au large de la Guadeloupe.
Et comme les impôts ou les cyclones, on ne s'y habitue jamais vraiment. Il faudra bien pourtant, une fois de plus, et comme tous les ans, supporter le déferlement des algues brunes. Sébastien Gilles de la Première Guadeloupe.
Le bassin atlantique reste chargé en radeaux et filaments d'algues brunes. Poussés par un lent flux d'est, les arrivages sur les côtes exposées sont pour ainsi dire inéluctables. Pire, selon les prévisionnistes, aucun littoral situé à l'est de l'archipel et exposé au flux de secteur est ne sera épargné. La Désirade est en première ligne, elle a été placée en risque très fort d'échouement. Quant aux côtes au vent de la Basse-Terre, de la Grande-Terre ainsi que la côte sud de cette dernière et le sud-est de Marégalan, tous ces littoraux ont eux été placés en risque d'échouement fort. Enfin, les Saintes ont été classées en risque moyen. Des arrivages nombreux, répétitifs selon le bulletin publié lundi et qui a été établi sur la base d'images satellites du 12 et du 13 avril dernier. Les autres côtes seront, elles, impactées dans une moindre mesure, mais ces échouements, même minimes, avec l'effet de répétition, peut entraîner des accumulations importante. À moyen terme, pour les deux prochaines semaines, pas d'amélioration à attendre. La densité et la proximité des radeaux en Atlantique devraient continuer à alimenter ces échouements qui iront crescendo dans les semaines à venir, selon les prévisionnistes.
On reste, si l'on peut dire, dans le domaine maritime avec le mouvement de grève qui paralyse depuis le 28 mars dernier les navettes entre Fort-de-France et les Trois-Îlets. Et nous sommes bien sûr en Martinique. Mike Irasque.
Prendre le TCSP, prendre le bus jusqu'à Rivière-Salée pour encore reprendre le bus aux Trois-Îlets. Non, c'est super compliqué.
Entourée de ses copines de lycée, Eléa décrit le périple que doivent faire ses amis depuis le début de la grève pour arriver aux Trois-Îlets. Quant à la situation personnelle d'Eléa, elle est tout aussi compliquée quand il s'agit de se rendre dans la commune du Sud.
Moi, je sors de Trinité, donc ma mère est obligée donc, de me déposer quelque part au centre pour que l'une des mères de mes copines qui habite, elle, à Fort-de-France-Chelcher, vienne me chercher et du coup, m'était posé aux Trois-Îlets.
Et quand il y a une solution pour arriver à destination, ce n'est pas toujours l'idéal.
On est obligé de faire du covoiturage. Parfois, on se retrouve à 6 dans la voiture. C'est vraiment compliqué.
En matière de service public durant cette grève, Eléa a d'ailleurs une proposition à faire à Martinique Transport. Une proposition qui résonne presque comme un SOS.
Un bus qui fasse directement aller aux Trois-Îlets et retour en ville, à Fort-de-France. Ouais, ça serait pas mal, quoi.
En matière de transport maritime en Martinique, conflit social pour les uns rime décidément avec débrouillardise pour les autres.
Et un petit coup d'œil sur une carte de la Martinique vous permettra de mieux comprendre l'attrait d'une liaison maritime entre Fort-de-France et les Trois-Îlets. Bon après-midi, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand. Allez, il est presque 13h30 en temps universel. On se quitte avec un petit peu de musique. Grooveria Electro Acoustica sur RFI Meninha Morena.
Alô, Grooveria! Essa parada é maneira, essa parada é nossa! Ô, oh, legal! E aí, gente? Ela é ou não é, tu? Tamo junto! Chegou, sorriu, dançou, levou ao delírio, menina arrasou com samba no pé. Vou colar pra ver qual é que é. Seu jeito, menina parceira, soltinha, provoca, cutuca. Machuca a mulher. Ai meu Deus do céu, onde ela é? chegou, sorriu, dançou, levou ao delírio. Menina arrasou com samba no pé. Vou colar pra ver qual é que é.
Voilà, un petit extrait de musique brésilienne pour se quitter aujourd'hui. Merci à Tiffany Menta qui était à la réalisation, Chantal Leroux à la rédaction en chef. Dans un instant sur RFI, c'est De Vive Voix avec Pascal Paradou. Bonne journée à tous.
Seja daqui ou do Japão, meu coração não escolhe a região pra matar a solidão no meio da multidão que a cidade.